Fasse image. tout de suite du discours analytique. Il est bien évident, pourtant, que dans le discours analytique, il s'agit de ça, de ce qui se lit. De ce qui se lit au-delà de ce que vous avez incité le sujet à dire, qui est, comme je l'ai souligné, je pense au passage la dernière fois, qui n'est pas tellement de tout dire que de dire n'importe quoi, et j'ai poussé la chose plus loin, ne pas hésiter, car c'est la règle. Pas hésiter à dire ce dont j'ai introduit cette année la dimension comme étant essentielle au discours analytique, à dire des bêtises. Naturellement, ça suppose que nous développions cette dimension, et ceci ne peut pas se faire sans le dire. Qu'est-ce que c'est que la dimension de la bêtise ? La bêtise, au moins celle-ci, qu'on peut proférer, c'est que la bêtise ne va pas loin. Dans le discours, courant, elle tourne court. C'est bien sûr c'est quelque chose dont, si je puis dire, je m'assure. Quand je fais cette chose que je ne fais jamais sans tremblement, à savoir de retourner à ce que dans le temps j'ai proféré, ça me fait toujours une sainte peur. La peur, justement, d'avoir dit des bêtises, c'est-à-dire quelque chose que, en raison de ce que j'avance maintenant, je pourrais considérer comme tenant pas le coup. Grâce à quelqu'un qui a repris ce séminaire annoncé, le premier de l'école normale, qui va sortir bientôt, j'ai pu avoir ce qui n'est pas souvent réservé, puisque, comme je vous le dis, j'en évite moi-même le risque. J'ai pu avoir le sentiment que je rencontre quelquefois à l'épreuve Qu'est-ce que dans cette année-là, par exemple, j'ai avancé, n'était pas si bête. N'était au moins pas tant que de m'avoir permis d'avancer d'autres choses dont il me semble, parce que j'y suis maintenant, qu'elles se tiennent. Il n'en reste pas moins que ce surlire représente une dimension qui est à situer proprement dans ce que c'est que au regard du discours analytique, la fonction de ce qui se lit. Le discours analytique a à cet égard un privilège. Il me paraît difficile, c'est de là que je suis parti, dans ce qui m'a fait date de ce que j'enseigne, comme je me suis exprimé, qui ne veut peut-être pas tout à fait dire ce que ça avait l'air d'énoncer, à savoir mettre l'accent sur le je, à savoir ce que je puis proférer, mais peut-être aussi de mettre l'accent sur le de, c'est-à-dire d'où ça vient un enseignement dont je suis l'effet. Depuis, j'ai mis l'accent sur ce que j'ai fondé d'une articulation précise, celle qui s'écrit, justement, s'écrit au tableau de quatre lettres, de deux barres et de quelques traits, nommément cinq, qui relient chacune de ces lettres, une de ces barres, puisqu'il y en a quatre, il pourrait y en avoir six, six barres, une de ces barres, il manque. Ce qui, de cette façon s'écrit, que j'appelle discours analytique, ceci est parti d'un rappel initial, d'un rappel premier, c'est à savoir que le discours analytique est ce mode de rapport nouveau qui s'est fondé seulement de ce qui fonctionne comme parle. Et ce, dans quelque chose qu'on peut définir comme un champ, fonction et champ, ai-je écrit justement, et du langage, j'ai terminé en psychanalyse, ce qui était désigné ce qui fait l'originalité d'un certain discours qui n'est pas homogène à un certain nombre d'autres, qui font office et que que seulement ce fait, nous allons dire, distingué d'être discours officiel, il s'agit jusqu'à un certain point de discerner quel est l'office du discours analytique et de le rendre lui aussi, sinon officiel, du moins officiant. C'est dans ce discours tel qu'il est, dans sa fonction et son office, qu'il s'agit discerner, c'est aujourd'hui la voie que je prends, ce que peut ce discours révéler de la situation très particulière de l'écrit quant à ce qui est du langage. C'est une question qui est très à l'ordre du jour, si je puis m'exprimer ainsi. Néanmoins, ce n'est pas à cette pointe d'actualité que je voudrais tout de suite en venir. J'entends particulièrement préciser qu'elle peut être, si elle est spécifique, qu'elle peut être la fonction de l'écrit dans le discours analytique. C'est que j'ai produit, avancé l'usage pour permettre d'expliquer les fonctions de ce discours d'un certain nombre de lettres, très nommément pour les écrire. Le petit A, j'appelle objet, mais qui quand même n'est rien qu'une lettre. Le grand A, que je fais fonctionner dans ce qui, de la proposition, n'a pris que formule écrite et production de la logico-mathématique ou de la mathématico-logique, comme vous voudrez l'énoncer. Ce grand A, je n'en ai pas fait n'importe quoi. J'en désigne ce qui, d'abord, est un lieu, une place, qui dit le lieu de l'autre, comme tel désigné par une lettre. En quoi une lettre peut-elle servir à désigner un lieu? Il est clair qu'il y a là quelque chose d'abusif et que quand vous ouvrez par exemple la première page de ce qui a été enfin réuni sous la forme d'une édition définitive sous le titre de la théorie des ensembles et sous le chef d'auteur fictif du nom de Nicolas Bourbaki. Ce que vous voyez, c'est la mise en jeu d'un certain nombre de signes logiques. Ces signes logiques, précisément, désignent en particulier l'un d'entre eux, la fonction place comme telle. Son signe logique désigné, écrit par un petit carré. Je n'ai donc pas d'abord à proprement parler fait un usage strict de la lettre. Quand j'ai dit que le lieu de l'autre se symbolisait par la lettre grand A. Par contre, j'ai les marques en le redoublant de ce grand S qui ici veut dire signifiant, signifiant du grand latin en tant qu'il est carré par là. J'ai articulé dans l'écrit, dans la lettre, quelque chose qui ajoute une dimension à ce lieu du grand temple, et très précisément en montrant que comme le lieu, il ne tient pas, qu'il y a en ce lieu désigné de l'autre, une faille, un trou, un lieu de perte. C'est précisément de ce qui, au niveau de l'objet petit a, vient fonctionner au regard de cette perte que quelque chose est avancé de tout à fait essentiel à la fonction du langage. J'ai usé aussi de cette lettre par de ce que j'ai introduit qui fonctionne comme lettre, qui introduit comme telle une dimension nouvelle. J'ai utilisé le distinguant de la fonction seulement signifiante qui se promeut dans la théorie analytique jusque-là vers le phallus. J'ai avancé grand phi comme constituant quelque chose d'original, quelque chose que je spécifie ici, aujourd'hui, d'être précisé dans son relief par l'écrit même. C'est une lettre dont la fonction se distingue des autres. C'est d'ailleurs bien pour cela que ces trois lettres sont différentes. Elles n'ont pas la même fonction que déjà. Vous pouvez l'avoir senti de ce que j'ai d'abord énoncé de Est à Bahreïn et du Tétat. Elle est d'une fonction différente et pourtant elle reste une lettre. C'est très précisément de montrer le rapport que de ce que ces lettres introduisent dans la fonction du signifiant qu'il s'agit aujourd'hui de discerner ce que nous pouvons apprendre le fil du discours analytique en avancée. Je propose ceci. C'est que vous considériez l'écrit comme n'étant nullement du même registre, du même tabac, si vous permettez cette sorte d'expression qui peuvent avoir bien leur utilité, que ce qu'on appelle le signifiant. Le signifiant, c'est une dimension qui a été introduite de la linguistique, c'est-à-dire de quelque chose qui, dans le champ où se produit la parole, ne va pas de soi. Un discours le soutient, qui est le discours scientifique. Certains ordres de dissociation, de division, est introduit par la linguistique, grâce à quoi se font la distinction de ce qui semble pourtant aller de soi, c'est quand on parle, ça signifie. Ça comporte le signifié, bien plus, jusqu'à un certain point, ça ne se supporte que de la fonction de signification. Introduit, distingué, la dimension du signifiant, c'est quelque chose qui prend relief précisément que de poser que le signifiant comme tel, très précisément ce que vous entendez au sens, je dirais littéralement auditif du terme, au moment où ici et là où je suis. C'est là où je suis, je vous parle. C'est posé très précisément ceci, mais par un acte original que ce que vous entendez a avec ce que ça signifie n'a avec ce que ça signifie aucun rapport. C'est là un acte qui ne s'institue que d'un discours, dit discours scientifique. Cela ne va pas de soi. Et ça va même tellement peu de soi que ce que vous voyez sortir. Dialogue qui n'est pas d'une mauvaise plume, puisque c'est le cratyle du nommé Platon. Ça va tellement peu de soi que tout ce discours est fait l'effort de faire que justement, ce rapport qui fait que ce qui s'énonce, c'est fait pour signifier, et que ça doit bien avoir quelque rapport, tous dialogues et tentatives, nous pouvons dire tous nous sommes être désespérés pour faire que signifiant. De soi-même soit présumé vouloir dire quelque chose. Cette tentative désespérée d'ailleurs marquait l'échec, puisque c'est d'un autre discours, mais d'un discours qui comporte sa dimension originale, discours scientifique qu'il se produit et d'une façon, si je puis dire, dont il n'y a pas à chercher l'histoire, qui se produit de l'instauration même de ce discours que le signifiant se pose que d'avoir aucun rapport. Les termes-là dont on use sont toujours eux-mêmes glissants. Même un linguiste aussi pertinent qu'a pu l'être Ferdinand Saussure parle d'arbitraire. Mais c'est là glissement dans un autre discours, le discours du décret, ou pour mieux dire, le discours du maître, pour l'appeler par son nom. L'arbitraire n'est pas ce qui convient, mais d'un autre côté. Nous devons toujours faire attention quand nous développons un discours, si nous voulons rester dans son champ même et ne pas perpétuellement produire ces effets de rechute, si je puis dire, dans un autre discours. Nous devons tenter de donner à chaque discours sa consistance. Et pour maintenir sa consistance, n'en sortir qu'à bon escient. Dire que système signifiant et arbitraire n'a pas la même portée que dire simplement que le signifiant n'a pas de rapport avec son effet signifié. C'est ainsi qu'à chaque instant, et plus que jamais, dans le cas où il s'agit d'avancer comme fonction ce qu'est un discours, nous devons au moins à chaque fois, à chaque instant, noter ce en quoi glissons dans une autre référence, le mot référence en location. Ne pouvant se situer que de ce que constitue comme lien le discours comme tel. Il n'y a rien à quoi le signifiant comme tel se réfère, si ce n'est à un discours, à un mode de fonctionnement du langage, à une utilisation comme lien du langage. Encore faut-il préciser à cette occasion ce que veut dire le lien bien sûr. Nous ne pouvons qu'y glisser immédiatement. C'est un lien entre ceux qui parlent, et vous voyez tout de suite où nous allons, à savoir ceux qui parlent. Bien sûr, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des êtres que nous sommes habitués à qualifier de vivant. Et peut-être est-il très difficile d'exclure de ceux qui parlent cette dimension qui est celle de la vie, à moins que nous nous apercevions aussitôt ce qui se touche du doigt, que dans le champ de ceux qui parlent, il nous est très difficile de faire entrer la fonction de la vie sans faire en même temps entrer la fonction de la mort. Et que de là résulte une ambiguïté signifiante, justement, qui est tout à fait radical de ce qui peut être avancé comme étant fonction de bien et de mort. Il est tout à fait clair que rien de conduit de façon plus directe à ceci, que quelque chose où seulement la vie peut se définir, à savoir la reproduction d'un corps, cette fonction de reproduction elle-même ne peut s'intituler ni spécialement de la vie, ni spécialement de la mort, puisque comme telle, en tant que cette reproduction est sexuée, comme telle, elle comporte les deux, vie et mort. Mais déjà, rien qu'à nous avancer déjà dans le film, dans l'élan du discours analytique, nous avons fait ce saut, ce glissement qui s'appelle conception du monde, qui maintient pourtant être pour nous considéré comme ce qu'il y a de plus comique, à savoir que nous devons toujours faire très attention que ce terme conception du monde suppose lui-même un tout autre discours qu'il fait partie celui de la philosophie, que rien après tout n'est moins assuré. Si l'on sort du discours philosophique que l'existence comme telle d'un monde il n'y a souvent que l'occasion de sourire dans ce qui est avancé, par exemple, du discours analytique, comme comportant quelque chose qui soit de l'ordre d'une telle conception. Je dirais même, plus loin, que jusqu'à certains points, il mérite aussi qu'on sourie de voir avancer un tel terme pour désigner, par exemple, disons, ce qui s'appelle marxisme. Le marxisme ne me semble pas, et à quelque examen que ce soit, fût-ce le plus approximatif, ne peut passer pour conception du monde. Il est contraire par toutes sortes de coordonnées tout à fait frappantes, que l'énoncé de ce que dit Marx, qui ne se confond pas obligatoirement avec la conception du monde marxiste, c'est à proprement parler autre chose. J'appellerai plus formellement un évangile, à savoir une annonce que quelque chose qui s'appelle l'histoire instaure une autre dimension du discours. En d'autres termes, la possibilité de subvertir complètement la fonction du discours comme tel. J'entends à proprement parler du discours philosophique en tant que sur lui repose une conception du monde. Le langage s'avère donc beaucoup plus vaste comme champ, beaucoup plus riche de ressources que d'être simplement celui où puisse s'inscrire un discours qui est celui qui, au cours des temps, s'est instauré du discours philosophique. Ce n'est pas parce qu'il nous est difficile de ne pas du tout retenir compte pour autant ce discours philosophique, certains points de repère sont énoncés et qui sont difficiles à éliminer complètement de tout usage du langage. Ce n'est pas à cause de cela que devons à tout prix nous en passer, à condition de nous apercevoir qu'il n'y a rien de plus facile que de retomber dans ce que j'ai appelé ironiquement, voire avec la note comique, conception du monde, mais qui a un nom modéré, bien plus précis, et qui s'appelle l'ontologie. L'ontologie est spécialement ceci qui tient certains usages du langage, a mis en valeur, a produit d'une façon accentuée, a produit l'usage dans le langage de la copule d'une façon telle qu'elle ait été en somme isolée comme signifiant. S'arrêter au verbe être, ce verbe qui n'est même pas dans le champ complet de la diversité des langues, d'un usage qu'on puisse qualifier d'universel, le produire comme tel, est quelque chose qui comporte une accentuation, qui est pleine de risques. Pour, si l'on peut dire, la détecter, et même jusqu'à un certain point l'exorciser, il suffirait peut-être d'avancer, rien n'oblige. Quand on dit que quoi que ce soit, c'est ce que c'est, d'aucune façon ce être, de l'isoler, de l'accentuer, ça se prononce « c'est ce que c'est » et ça pourrait aussi bien s'écrire « S-E-S-K-E-C-E » que on y verrait, à cet usage de la copule, on y verrait, si je puis dire, que du feu. On y verrait du feu si un discours qui est le discours du maître, qui ici peut aussi bien s'écrire M'E-T-R-E, ce qui met l'accent sur le verbe. C'est ce quelque chose qu'Aristote lui-même regarde à deux fois à avancer, puisque pour ce qui est de l'être, il oppose au totiesti, à la quiétité, à ce que ça est, il va jusqu'à employer le toti en einai, à savoir ce qui serait bien produit était venu à être au coup ce qui était à être. Et il semble que là, le pédicule se conserve, qui nous permette de situer d'où se produit ce discours de l'être. Il est tout simplement celui de l'être à la botte, de l'être aux ordres. Ce qui allait être, si tu avais entendu ce que je t'ordonne, toute dimension de l'être se produit de quelque chose qui est dans le fil, dans le courant du discours du maître, de celui qui, proférant le signifiant en atome, ce qui est un de ses effets de lien, assurément à ne pas négliger, qui est fait de ceci le signifiant, comment le signifiant est d'abord et de sa dimension impérative. Comment retourner, si ce n'est d'un discours spécial, à ce que je pourrais avancer d'une réalité prédiscursive? C'est là ce qui, bien entendu, est le rêve fondateur de toute idée de connaissance, mais ce qui aussi bien est à considérer comme mythique, il n'y a aucune réalité prédiscursive. Chaque réalité se fonde et se définit d'un discours. Et c'est bien dans cela qu'il importe que nous nous apercevions de quoi est fait le discours analytique et de ne pas méconnaître ce qui sans doute n'y a qu'une place limitée, à savoir, mon Dieu, que on y parle de ce que le verbe foutre énonce parfaitement. On y parle de foutre, de, je veux dire, le verbe tout fuck, n'est-ce pas? Et on y dit que ça ne va pas. C'est une part importante de ce qui se confie dans le discours analytique. Et il importe de très précisément souligner que ce n'est pas son privilège. Il est clair que dans ce que j'appelais tout à l'heure le discours, et en l'écrivant presque en un seul mot, le disque hors courant, le disque aussi hors champ, hors jeu, discours, à savoir le disque tout court, dans le disque qui est bien après tout l'angle sous lequel nous pouvons considérer tout un champ du langage, celui qui en effet donne bien sa substance, son étoffe à être considéré comme disque, à savoir que ça tourne et que ça tourne très exactement pour rien. Ce disque est exactement ce qui se trouve dans le champ d'où les discours se spécifient, le champ où tout ça se noie, où tout de chacun est capable, tout aussi capable de s'en énoncer autant, mais par un souci de ce que nous appellerons à très juste titre d'essence, le fait, mon Dieu, le moins possible, ce qui fait le fond de la vie, en effet, c'est que tout ce qu'il en est des rapports des hommes et des femmes, ce qu'on appelle collectivité, ça ne va pas, et tout le monde en parle, et une grande partie de notre activité se passe à le dire. Il n'empêche qu'il n'y a rien de sérieux, si ce n'est ce qui s'entonne, d'une autre façon, comme discours. Il suffit que, précisément, ce rapport sexuel, en tant qu'il ne va pas, il va quand même, grâce à un certain nombre de conventions, d'interdits, d'inhibitions, de toutes sortes de choses qui sont les faits du langage, qui ne sont à prendre que cette étoffe et ce registre, et qui réduisent très précisément ceci, ce qui tout d'un coup nous fait venir, comme il convient au champ du discours, n'y a pas la moindre réalité prédiscursive, pour la bonne raison que ce qui fait collectivité, et que j'ai appelé, l'évoquant à l'instant, les hommes, les femmes et les enfants, ça ne veut très exactement rien dire comme réalité prédiscursive. Les hommes, les femmes et les enfants, ce ne sont que des signifiants. Un homme, ce n'est rien d'autre qu'un signifiant. Une femme cherche un homme au titre de signifiant. Cherche une femme au titre. Au titre de ce qui ne se situe que du discours, puisque si ce que j'avance est vrai, à savoir que la femme n'est pas toute, il y a toujours quelque chose qui, chez elle, échappe au discours. Alors, c'est de savoir ce qui, dans un discours, se produit de l'effet de l'écrit. Vous savez en tout cas si vous avez lu ce que j'écris, signifiant et signifié. C'est pas seulement que la linguistique les ait distingués, chose peut-être vous paraît aller de soi, mais justement, c'est à considérer que les choses vont de soi, hein, qu'on ne voit rien de ce qu'on a pourtant par les yeux nus. Et dans les yeux concernant justement l'écrit, s'il y a quelque chose qui peut nous introduire à la dimension de l'écrit comme tel, pas plus que le signifié n'est pas signifiant. Ça n'a pas fait avec seulement avec la laideur, à savoir de ce qu'on entend de signifier. Et signifier, c'est justement parce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est le signifiant. Et signifier, c'est l'effet du signifiant. Il y a quelque chose qui n'est que l'effet du discours. L'effet du discours en tant que tel, c'est-à-dire quelque chose qui fonctionne déjà comme lien. Bien, c'est quelque chose qui, au niveau d'un écrit, effet discours scientifique du grand test fait pour connoter la place du signifiant et du petit test dont se connote comme place de signifier que cette fonction de place n'est créée que par le discours lui-même. Chacun à sa place, ça ne fonctionne que dans le discours. Eh bien, entre les deux, il y a la barre. Et ça n'a l'air de rien. Quand vous écrivez une barre pour expliquer ce mot expliquer. Toute son importance. Parce que il n'y a rien moyen de comprendre à une part. Hein. À signifier la négation. C'est très difficile de comprendre ce que ça veut dire, la négation, malgré tout. Si on y regarde un tout petit peu près, hein, vous apercevrez en particulier qu'il y en a une très grande variété de négations et qu'il est tout à fait impossible de réunir toutes les négations sous le même concept. La négation de l'existence, ce n'est pas du tout la même chose que la négation de la totalité. Pour me limiter à l'usage que j'ai pu faire de la négation, mais il y a une chose qui est en tout cas encore plus certaine, c'est que le fait d'ajouter la barre à la notation grand S et petit S, qui déjà se distingue très suffisamment, pourrait souvenir d'être seulement marqué par la distance de l'écrit, y ajouter la barre à quelque chose de superflu, voire de futile, et qu'en tout cas, comme tout ce qui est l'écrit, se supporte terrible que de ceci, c'est que, justement, l'écrit, ça n'est pas à comprendre. C'est bien pour ça que vous n'êtes pas forcé de comprendre les miens. Si vous ne les comprenez pas, c'est un bon signe. Tant mieux. Ça vous donnera, justement, l'occasion de les expliquer. Eh bien, la barre, c'est pareil. La barre, c'est très précisément le point où, dans tout usage du langage, à ce que se produise l'écrit. Si dans Saussure, mais grand S, par au-dessus de petit S, c'est grâce à ça que dans l'instance de la lettre qui fait partie de mes écrits, j'ai pu vous démontrer d'une façon qui s'écrit, rien de plus, n'est-ce pas, que rien ne se supporte. Des effets dits de l'inconscient, si grâce à cette part, s'il n'y avait pas cette part, rien ne pourrait en être expliqué. Il y a du signifiant, je répète. Mais dès que j'ai écourté, il y a du signifiant qui passe sous la barre. S'il n'y avait pas de barre, vous ne pourriez pas voir qu'il y a du signifiant qui s'injecte dans le signifié. Grâce à l'écrit se manifeste ceci qui n'est qu'effet discours, car s'il n'y avait pas de discours analytique, vous continueriez à parler très exactement comme des étourneaux, c'est-à-dire à dire ce que je qualifie de discours courant, c'est-à-dire de continuer le disque continuant sur quelque chose qui est le point le plus important que révèle le discours analytique seulement, c'est à savoir ceci qui ne peut s'articuler que grâce à toute la construction du discours analytique, c'est très précisément, il n'y a pas, je reviens là-dessus, puisque après tout c'est la formule que je vous serine, mais de vous la seriner, faut-il encore que je l'explique, parce qu'elle ne se supporte que de l'écrit précisément, et de l'écrit en ceci, que le rapport sexuel ne peut pas s'écrire. C'est ce que ça veut dire. Ou plus exactement, que tout ce qui est écrit est conditionné de façon telle que sa part du fait qu'il sera à jamais impossible de décrire comme tel le rapport sexuel, que l'écriture comme tel est possible, à savoir qu'il y a un certain effet du discours qui s'appelle l'écriture. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va? Il n'entend pas, hein? Je vous demande pardon. Voyez-vous, tout à fait lié à cet usage courant du langage. Et s'il y a un discours qui vous le démontre, c'est que la femme ne sera jamais prise. C'est ce que le discours analytique met en jeu. Corinth Matrène. C'est-à-dire que la femme n'entrera en fonction dans le rapport sexuel qu'en tant que la mère. Ça, c'est des vérités massives. Et qui, en nous y regardant de plus près, bien entendu, nous mèneront plus loin. Mais grâce à quoi? Grâce à l'écriture. Qui, d'ailleurs, ne fera pas objection à cette première approximation, puisque, justement, c'est par là qu'il montrera que c'est une suppléance de ce pas tout sur quoi repose quoi la jouissance de la femme. C'est à savoir que cette jouissance, qu'elle n'est pas toute, c'est-à-dire qui quelque part la fait absente d'elle-même, absente en tant que sujet, qu'elle y trouvera le bouchon de ce petit tas qui sera son enfant. Et d'un autre côté, du côté de l'X, à savoir de ce qui serait l'homme, si ce rapport sexuel pouvait s'écrire d'une façon soutenable, soutenable dans un discours, vous verrez que l'homme n'est qu'un signifiant, parce que là où il entre en jeu comme signifiant, il n'y entre que coad castrationnel. C'est-à-dire en tant qu'il a un rapport quelconque avec la jouissance phallique. de sorte que c'est à partir du moment où quelque part d'un discours qui aborde la question sérieusement, le discours analytique, que c'est à partir du moment où ce qui est la condition de l'écrit, à savoir qu'il soutienne d'un discours, que tout se dérobera et que le rapport sexuel, vous ne pourrez jamais l'écrire. Naturellement, dans la mesure où il s'agit d'un vrai écrit, c'est-à-dire de l'écrit, en tant que c'est ce qui, du langage, se conditionne d'un discours. La lettre radicale est effet de discours. Ce qu'il y a de bien, n'est-ce pas, si vous me permettez, ce qu'il y a de bien dans ce que je raconte, c'est que c'est toujours la même chose. C'est à savoir, non pas bien sûr que je me répète, c'est pas là la question. C'est que ce que j'ai dit antérieurement, la première fois, autant que je me souvienne, que je parlais de la lettre, c'était comme ça, j'ai sorti ça, je ne sais plus quand, maintenant je ne vais plus rechercher, je vous dis, j'ai horreur de le relire. Il doit bien y avoir 15 ans, quelque part à Sainte-Anne, j'ai essayé de faire remarquer cette petite chose, tout le monde connaît, bien sûr, tout le monde connaît quand on lit un peu, n'est-ce pas, ce qui n'arrive pas à tout le monde. Quelqu'un nommé Sir Flinders Petrie, par exemple, avait remarqué que les lettres de l'alphabet phénicien se trouvaient bien avant le temps de la Phénicie, n'est-ce pas, sur de menus poteries égyptiennes, n'est-ce pas, où elles servaient de marque de fabrique. Ce qui veut dire seulement ceci, n'est-ce pas, que le marché, qui est typiquement un effet de discours, c'est là que d'abord est sortie la lettre, avant quiconque ait songé à user des lettres, n'est-ce pas, pour faire quoi ? Quelque chose qui n'a rien à faire, qui n'a rien à faire avec la connotation du signifiant, mais qui l'élabore, qui le perfectionne. Il faudrait bien sûr rendre les choses au niveau de l'histoire de chaque langue, parce qu'il est clair que la lettre chinoise, celle qui nous affole tellement que nous appelons ça, je Dieu sait pourquoi, d'un nom différent de caractère. À savoir que la lettre chinoise, il est manifeste qu'elle est sortie du discours chinois très ancien, d'une façon toute différente de la façon dont sont sorties nos lettres, n'est-ce pas? À savoir qu'en somme, les lettres d'ici je sors, n'est-ce pas? Elles sont à l'heure différentes comme les lettres parce que ce sont des discours analytiques, ce qui peut sortir comme des lettres. Par exemple, de la théorie des ensembles, à savoir de l'usage qu'on en fait, et qui pourtant, c'est là l'intérêt, n'est pas sans avoir de rapport, un certain rapport de convergence sur lequel j'aurai certainement, dans ce qui sera la suite, l'occasion d'apporter quelques développements. La lettre, en tant qu'effet, n'est-ce pas, n'importe quel effet de discours, a ceci bon qui fait la lettre. Alors, mon Dieu, pour terminer aujourd'hui, imagination développée, ce que je reprendrai à propos d'Aragon, discernant par exemple la différence qu'il y a de l'usage de la lettre dans l'algèbre ou de l'usage de la lettre dans la théorie des ensembles, parce que ceci nous intéresse directement. Bon. Pour l'instant, je veux simplement vous faire remarquer que il se produit quand même quelque chose qui est corrélatif de l'émergence au monde. Au monde, c'est le cas de le dire, au monde en décomposition, Dieu merci, n'est-ce pas, au monde que nous voyons plus venir, puisque même dans le discours scientifique, il est clair qu'il n'y a pas le moindre monde. À partir du moment où vous pouvez ajouter aux atomes un truc qui s'appelle le quark, n'est-ce pas, et vous trouvez à fin de siècle. Parce que c'est là le vrai fil, n'est-ce pas, du discours scientifique, mais quand même vous rendre compte, n'est-ce pas, qu'il s'agit d'autre chose, qu'il s'agit de voir d'où on part. Eh bien, référez-vous quand même, parce que c'est une bonne lecture, il faut que vous vous mettiez vous-même à lire un peu, enfin, les auteurs, je ne dirais pas de votre temps, bien sûr, je ne dirais pas de lire Philippe Soler, c'est inutilisible, bien sûr, vraiment, comme moi, oui, mais lire Joyce, par exemple. Alors là, vous verrez comment ça a commencé, de se produire, n'est-ce pas? Vous verrez que le langage se perfectionne. Et c'est jouer, c'est jouer avec l'écriture. Joyce, moi je veux bien que ça ne soit pas lisible. C'est certainement pas traductible en chinois. Seulement, Joyce, qu'est-ce que c'est? C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est le signifiant qui vient truffer le signifié. Joyce, c'est un long texte écrit, lisez Finnegan Swag, c'est un long texte écrit qui, dont le sens revient de ceci, c'est que c'est du fait que les signifiants s'emboîtent, enfin, se composent, si vous voulez, pour faire image, enfin, ceux qui ici n'ont même pas l'idée de ce que c'est, ce télescope, que c'est avec ça que se produit quelque chose qui, comme signifié, peut paraître énigmatique, mais qui est bien ce qu'il y a de plus proche de ce dont nous autres analystes, grâce au discours analytique, nous savons le lire, n'est-ce pas, qui est ce qu'il y a de plus proche du lapsus. Et c'est au titre de lapsus que ça signifie quelque chose, c'est-à-dire que ça peut se lire d'une infinité de façons différentes. Mais c'est justement pour ça que ça se lit mal, ou ça se lit de travers, ou ça ne se lit pas. Mais cette dimension du se lire, est-ce que n'est pas suffisante pour montrer que nous sommes dans le registre du discours analytique, que donc, ce dont il s'agit dans le discours analytique, c'est toujours à ce qui s'énonce de signifiant que vous donniez une autre lecture que ce qu'il signifie. Mais c'est là que commence la question. Parce que, voyons, pour vous faire comprendre, je vais prendre une référence comme ça dans ce que vous lisez dans le grand livre du nombre, n'est-ce pas? Par exemple, vous voyez, enfin, le vol d'une abeille, comme ça. Le vol d'une abeille. L'abeille vole. Elle va, elle butine, elle va de fleur en fleur. Ce que vous apprenez, c'est que elle va transporter au bout de ses pattes, enfin, le pollen d'une fleur sur le pistil, sur du mercure, aux œufs d'une autre fleur. C'est ce que vous lisez dans le vol de l'abeille. N'importe quoi d'autre, n'est-ce pas? Vous voyez, je ne sais pas moi, quelque chose qui... que vous appelez tout d'un coup comme ça un vol d'oiseaux qui volent bas. Voilà, vous appelez ça un vol. C'est un groupe, en réalité, un groupe à un certain niveau. Vous y lisez qui va faire de l'orage. Mais est-ce qu'ils lisent ce que l'abeille lit et qu'elle sert à la reproduction des familles organiques, hein? Est-ce que l'oiseau lit l'augure de la fortune, comme on disait autrefois, c'est-à-dire de la tempête? Toute la question est là. C'est pas exclu, après tout, que l'hirondelle ne lise pas la tempête. Mais c'est pas sûr non plus. Ce qu'il y a dans votre discours analytique, c'est que le sujet de l'inconscient, vous le supposez savoir lire. Ça n'est rien d'autre, votre histoire de l'inconscient, n'est-ce pas? C'est que, non seulement vous supposez savoir lire, mais vous supposez pouvoir apprendre à lire. Seulement, ce que vous lui apprenez à lire n'a alors absolument rien à faire, en aucun cas, avec ce que vous pouvez